L'épreuve entière aurait pu être annulée. Finalement, on a réussi à se rassembler dans à Sada, dans la baie de la Corogne, mais après des convoyages anthologiques, on a dû s'arrêter en cours de convoyage parce que ça, on n'arrivait pas à passer le cap Ortegal. On s'est retrouvé à 50 mini dans une baie sur des coffres à 5 par coffre. Pas d'informations. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi et à la fois assez excitant et ouais, vraiment l'aventure. Et finalement, on prend un départ un mois après le départ initialement prévu. On prend le départ de Sada, donc dans la baie de la Corogne, mais en une seule étape. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus nous accueillir aux Canaries comme on aurait dû le faire et comme ça se fait tout le temps, soit aux Canaries, soit à Madère. Et on partait directement de Sada vers la Guadeloupe. Et on est parti dans des conditions extrêmement difficiles aussi. Pas auprès, dans du sud-ouest, mais c'était un moment où le vent a basculé au nord-est. Très fort, et il y a eu beaucoup, beaucoup de dématage. Et moi, dès la première nuit, en fin de première nuit, j'ai chaviré.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Yann Lipinski. Bonjour Yann.
Bonjour.
Yann, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Donc je m'appelle Yann, j'ai 38 ans, je vis à Lorient, je suis originaire de région parisienne où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans environ. J'ai un petit parcours à faire des études de physique et d'aéronautique et depuis une dizaine d'années, je me suis lancé dans la course au large. Et donc c'est à Lorient que j'ai atterri pour suivre ce projet de course. Et voilà, pour faire rapide.
Comment tu fais pour transitionner entre ingénieur et skipper? C'est quoi le déclic?
Bon, depuis l'âge de 15 ans, environ 14 ans, je faisais pas mal de voile, notamment à l'école de voile des Glénans. Et comme un Parisien, j'y allais souvent pendant les vacances. J'encadrais des stages de voile comme moniteur, puis... Je prenais beaucoup de plaisir à faire ça et à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en aéronautique, j'ai voulu faire une année de break avant de travailler comme ingénieur et je suis parti une année travailler quasiment à plein temps au Glénan mais à Paimpol pour apprendre non pas le dériveur que je pratiquais avant, mais la croisière. Et là, j'ai vraiment adoré naviguer dans la Manche. Découvrir tout ce plan d'eau qui est technique et très beau, très sauvage. Et au bout d'une année, j'ai commencé à chercher des emplois comme ingénieur. Et puis, je me suis rapidement démotivé. J'ai rappelé le chef de base de l'époque de Paimpol en lui disant « Tu me reprendrais pas une année de plus ?» Voilà, j'ai fait une année de plus, puis une troisième, puis j'ai passé un brevet d'état pour continuer à apprendre la pratique de la voile. J'ai passé un brevet d'état pendant une année à Quiberon, à l'École nationale de voile. Et puis après, un ami m'a emmené sur une course en double, le Mini Fastnet, sur les Mini. J'ai découvert le Mini 650. Comme ça, c'était ma première expérience un peu de course au large, là, de 4-5 jours en mer. J'ai vraiment adoré. Puis après, je suis parti en voyage à 4 avec... On est parti à deux couples, on a acheté un bateau de voyage là en acier. On est parti un an autour de l'Atlantique. Et quand je suis revenu de ce tour de l'Atlantique, j'étais décidé à vraiment me lancer dans la course au large. Voilà comment, de mon diplôme d'ingénieur, j'ai basculé dans la voile et que j'en suis pas encore complètement sorti.
C'est canon. Tu dis que tu te fais... Alors, les courses de Mini 650, c'est les premières que tu fais au large, c'est ça ?
Ouais, c'était le Mini Fastnet. C'était en quelle année ? Ça devait être en 2009. Et là, ouais, c'est vraiment ma première expérience. Je crois que j'avais jamais mis les pieds sur un Mini ou à peine. Et voilà, et ça, en fait... J'avais l'impression que se rejoignaient dans cette pratique-là les sensations de dériveur, le plaisir des petits bateaux qui vont vite avec beaucoup de sensations, et le plaisir de la croisière et de la vie en mer, parce que voilà, sur ces tout petits bateaux, on allait quand même un peu au large. Et en plus, je retrouvais aussi c'était un premier petit aperçu, mais de la cohésion et de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir au sein de la classe Mini et entre tous les coureurs qui s'apprêtaient en 2009 à partir sur la Mini Transat.
Et depuis, du coup, tu refais de la Mini, tu rentres de cette année de Tour du Monde et tu recommences des courses de Mini ?
En fait, c'est vraiment la petite graine là en 2009 qui, je m'imaginais pas du tout que ce soit possible de moi me lancer dans entre guillemets une carrière de coureur au large, mais il y avait une petite graine qui s'est mise à germer. Et pendant ce voyage autour de l'Atlantique, je pense que c'était resté dans un petit coin de la tête. Et la même personne qui m'avait Sébastien Picot, qui m'avait emmené sur son Mini, courait la Transat AG2R. Et il se trouvait qu'à l'arrivée de la Transat AG2R à Saint-Barth, nous on n'était pas loin, on était à ce moment-là aux Antilles. Et on est allé l'accueillir, un peu par surprise d'ailleurs. Et donc là, j'ai retrouvé une bonne partie des ministres que j'avais rencontrés lors du Mini Fastnet. Il y en avait quelques-uns qui faisaient la G2R. Puis j'en ai découvert d'autres. On a passé une semaine à l'arrivée de la G2R à Saint-Barth, ce qui n'était pas complètement désagréable. Mais surtout, ce qui m'a permis de côtoyer ces gens-là et de me dire, finalement, ils ont l'air à peu près normaux. Et pourquoi eux pourrait faire de la course au large et pas moi, quoi. Donc là, cette petite graine qui avait germé, là, elle a commencé à bien pousser. Et sur la Transat retour, sur mon gros bateau en acier de 13 tonnes, je m'imaginais sur un Mini. On a fini ce voyage à Lorient parce que voilà, on avait compris que c'était à Lorient qu'à Lorient, c'était pas mal pour être au sein de cet écosystème de la course au large. Et donc, avec la forte envie de me lancer à mon tour. Alors ça s'est pas fait tout de suite, j'ai commencé par être embauché comme préparateur de Adrien Hardy que j'avais rencontré justement à Saint-Barth, et ça m'a permis de continuer à rencontrer ces gens et à baigner un peu dans le milieu de la coureur au large en étant préparateur d'un Figaro.
Et tu te relances quand du coup, c'est quoi la course suivante que tu fais ?
Eh bien, après 2 ans de préparation, j'ai l'opportunité d'acheter qui n'était pas encore trop cher à l'époque, un Mini 650 de série d'occasion. Et donc, j'ai l'opportunité de me lancer. Alors, pas comme professionnel, parce que je continuais de travailler à côté, mais je commençais à m'entraîner, à naviguer, à apprendre à naviguer tout seul, ce que je connaissais pas. Et à faire, c'est ma première course, c'était en 2012, du coup début 2012. Ah, donc 3 ans après avoir fait cette course-là. Quoi.
Et le cycle des Mini, si je ne me trompe pas, c'est 2 années. Et donc début 2012, tu te prépares à la Mini Transat de 2013.
Ouais, objectif, la Mini Transat de 2013. Donc pas mal à fond, mais voilà, pas du tout à plein temps. Mais en essayant d'avoir du temps pour participer au plus de courses possibles. Et puis, la découverte de la navigation, mais aussi de tout l'aspect préparation. Et puis, la recherche aussi de partenaires, de petits sponsors pour essayer de boucler le budget et d'avoir les moyens de s'inscrire à la Mini Transat.
Canon. Et alors, cette Mini Transat, ça donne quoi ?
Et cette Mini Transat a été vraiment particulière parce que l'année 2013 partait assez tard de Douarnenez. Les conditions étaient extrêmement mauvaises pour le départ, donc le départ n'a pas pu avoir lieu et pendant 15 jours à Douarnenez, on attendait une fenêtre météo pour partir. C'était assez stressant et c'était vraiment impossible de partir parce qu'il y avait les dépressions s'enchaînaient dans le golfe de Gascogne. On pouvait pas partir en sécurité. On a réussi à partir, je crois, deux grosses semaines après le départ initialement prévu, dans une micro-fenêtre. Et en fait, 36 heures après le départ, je crois, ou 24 heures après le départ, on reçoit via nos petits appareils BLU un message du directeur de course qui, au lieu de nous donner la météo, enfin, nous donne bien la météo, mais surtout nous dit que l'étape est annulée et qu'on doit faire un peu sauf qui peut vers la côte nord espagnole. Et tous les mini, les 90 mini qui avaient pris le départ, se sont éparpillés entre La Corogne et Riron. Et là, on a re-eu deux semaines de stand-by qui ont été extrêmement compliquées. C'était vraiment, vraiment l'aventure. Il a fallu... tout était très, très incertain. On était... l'épreuve entière aurait pu être annulée. Finalement, on a réussi à se rassembler à Sada, dans la baie de La Corogne, après des convoyages... anthologique, on a dû s'arrêter en cours de convoyage parce que ça, on n'arrivait pas à passer le Cap Ortegal. On s'est retrouvé à 50 mini dans une baie sur des coffres à 5 par coffre, pas d'informations. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi et à la fois assez excitant et ouais, vraiment l'aventure. Et finalement, on prend un départ un mois après le départ initialement prévu. On prend le départ de Sada, donc dans la baie de La Corogne, mais en une seule étape. C'est-à-dire que le temps était. Les gens ne pouvaient plus nous accueillir aux Canaries, comme on aurait dû le faire et comme ça se fait tout le temps, soit aux Canaries, soit à Madère. Et on partait directement de Sada vers la Guadeloupe. Et on est parti dans des conditions extrêmement difficiles aussi. Pas auprès, dans du sud-ouest, mais c'était un moment où le vent a basculé au nord-est. Très fort, et il y a eu beaucoup, beaucoup de dématage. Et moi, dès la première nuit, en fin de première nuit, j'ai chaviré. Donc, c'est vraiment très mal fini. Je me suis retrouvé après un surf. J'ai un peu tubé dans une vague. Et à 4 heures du matin, je me suis retrouvé sur le toit avec le bateau qui s'est rempli d'eau parce que je venais d'ouvrir la porte du bateau pour sortir dehors. Et donc le bateau s'est rempli d'eau, moi j'étais à l'intérieur, bloqué dedans, avec le bateau, avec beaucoup beaucoup d'eau à l'intérieur, en train de flotter, et le bateau est resté à l'envers pendant une heure. Du coup voilà comment s'est fini mon édition 2013. Donc il y a eu un mois d'aventure, mais la course en elle-même, proprement dite, elle a duré même pas 24 heures pour moi.
Ah ouais. Et le bateau s'est jamais remis devant, dans le bon sens ?
Et il s'est remis, en fait, le mât n'avait pas cassé dans le retournement, c'est pour ça que le bateau n'arrivait pas à se remettre à l'endroit, j'avais toujours ma quille. Et à force de se faire chahuter par la houle, le mât a fini par casser, et là, il s'est remis à l'endroit, quoi, au bout d'une heure. Donc j'avais eu le temps de mettre en combinaison de survie, de déclencher ma balise de détresse, et finalement, c'est un cargo polonais qui m'a récupéré le lendemain. Donc j'ai pu monter à bord du cargo, abandonner mon bateau, et je suis allé avec le cargo jusqu'à Sfax en Tunisie.
Et ensuite retour en France, et t'as pas secoué suffisamment pour dire j'arrête, au contraire tu t'es dit...
Ça m'a secoué suffisamment pour que j'ai vraiment envie d'y retourner. C'était essentiellement un sentiment de grosse frustration, que mes 2 ans de préparation, ce rêve de faire la mini-transat, s'arrête comme ça, brutalement. Ouais, c'était surtout de la frustration. En plus, je commençais à prendre goût vraiment à la compétition. J'étais dans le coup, j'étais dans le match. J'avais fait des bons résultats, j'avais gagné une première course, un mini-fastnet. Donc, je commençais à me dire que il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas, quoi, à faire des beaux résultats. Et j'étais vraiment chaud bouillant pour cette mini transat, et voilà, que ça s'arrête d'un coup, c'était surtout très très frustrant. Oui, j'ai eu un peu peur, enfin pas peur, mais voilà, j'ai bien saisi que c'était une situation délicate et que tout s'est à peu près bien passé au final. Après le chavirage, ça s'est pas détérioré, et voilà, on aurait pu imaginer des scénarios plus dramatiques. Mais comme, mais bon, ça s'est bien passé. Je m'en suis tiré. On a même réussi à ramener le bateau ensuite à terre. Il a pu être refitté et il a renavigué et il renavigue actuellement. Donc finalement, tout s'est bien fini. Mais par contre, moi, j'avais, sauf ma mini transat, quoi, j'avais pas fini mon parcours. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était d'y retourner, quoi.
Du coup, rebelote l'année suivante.
Et du coup, bah, après, il fallait trouver un moyen de, d'y retourner, un nouveau bateau, etc. J'avais plusieurs pistes, et puis j'ai été contacté par par deux personnes, Yann Dubé et Mathieu Piclet, qui montaient à l'époque un chantier qui est devenu le chantier Offset, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui montait ce chantier et qui construisait un nouveau petit mini de série, dessiné par Étienne Bertrand. Et bon, pour l'instant, quand ils m'ont contacté, ils n'avaient que les plans et ils cherchaient un premier skipper pour construire le bateau avec eux, enfin être dans la boucle et puis faire naviguer le bateau, le qualifier, etc. Donc ça c'était une nouvelle aventure qui s'est passée à La Rochelle. Moi, j'ai acheté le bateau sur plan.
Ouais.
Et j'ai participé à toute la construction avec eux à La Rochelle. On était dans un coin de hangar, de chantier. On devait déménager tous les 15 jours parce que alors, on n'était pas chez nous. Et donc, c'était le début d'une aventure pour eux, pour leur chantier, et puis pour moi, pour relancer ce projet. Et c'était super excitant d'être dans la boucle au tout début de la vie de ce bateau de série qui s'appelait l'Offset 650. Et puis, on a pu le mettre à l'eau. J'ai recommencé. On commençait à avoir des partenaires qui m'aidaient. Continuer cette recherche-là, on a mis, voilà, c'est forcément dans ces projets-là, tout est très speed, on n'a pas assez de moyens et pas, surtout pas assez de temps, et bon an, mal an, on a réussi à qualifier le bateau, donc ils ont réussi à en construire 10 surtout, à en vendre 10 et à en construire 10, moi à naviguer beaucoup dessus, et puis à faire des courses et à devenir bateau de série juste avant le départ quasiment de la Mini Transat 2015. Le bateau est devenu mini de série dans l'été 2015. J'ai fait la Transgascogne que j'ai gagnée avec le bateau et je me présente en 2015 une nouvelle tentative de mini transat qui partait cette fois qui partait toujours de Douarnenez. Et la première étape se passe bien, je la gagne avec beaucoup pas mal d'avance. J'arrive à aller plus loin que là où j'avais chaviré, et même à cet endroit-là, le long des côtes portugaises, je marchais bien, j'étais en tête, ça allait vite, enfin c'était une super expérience. Et je gagne la première étape, et à la deuxième étape, je me retrouve en situation de contrôler Julien Pulvé, qui avait un peu de retard et qui était en tête avec moi de la deuxième étape, sur un offset aussi, donc sur le même bateau.
Ouais.
Et quasiment, on traverse l'Atlantique bord à bord. Parce que moi, je voulais pas le lâcher. Lui essayait, mais moi, je n'étais pas d'accord. Donc, à 3 jours de la fin, on est quasiment à vue, quoi. Il y a des fois, on passe même à quelques longueurs l'un de l'autre. Donc, avec une relation, ça a permis de nous connaître, de nous apprécier. Et il gagne la deuxième étape. Mais avec pas assez d'avance pour... Voilà. Donc je gagne quand même le général et donc super super revanche par rapport à 2013.
Ouais,
et super projet qui se finit bien. Ça c'était la deuxième. Et à l'arrivée, j'avais un ami d'enfance qui m'aidait, qui faisait partie des partenaires que j'avais et donc qui était ravi de m'accueillir en vainqueur à Pointe-à-Pitre et qui me propose d'aller plus loin, de continuer ensemble. Et on décide de passer, de refaire une troisième mini, mais cette fois dans la catégorie prototype.
Ouais.
Et cet ami me propose d'investir dans un super proto qui avait fait construire Davy Baudard, un plan David Raison. Donc un super bateau, je savais que c'était le meilleur bateau. Malheureusement, Davy Baudard n'avait pas pu arriver en Guadeloupe ce coup-là parce qu'il avait abandonné la deuxième étape sur casse.
Ouais.
Mais l'idée, ça a été de récupérer ce bateau. Et ça a permis de relancer un troisième projet, Mini 650, en prototype, quoi. Et là, ça a été, on a fait carton plein, parce qu'on a gagné toutes les courses, vraiment toutes les courses du circuit pendant 2 ans avec, jusqu'à la Mini Transat 2017, qu'on gagne aussi les 2 étapes. Donc, voilà. Donc ça, c'est.
Et ça, c'est des courses que tu fais. Du coup, là, t'es passé en professionnel ou pas? Ou t'étais encore en train de travailler? Quand est-ce que tu fais la transition?
Non, non. Du coup, j'arrête quasiment en 2015. J'ai plus le temps de faire autre chose, donc on peut pas dire que je suis professionnel parce que c'est vraiment de bric et de broc et ouais, je fais des piges à droite à gauche, mais pas beaucoup mais par contre, je gagne pas d'argent du tout et genre c'est un peu galère quoi. Le dernier projet, ouais, c'était encore quand même bien, bien bancal, quoi. Financièrement, c'était, pouvait pas. Voilà, c'était. Je poussais le bouchon, mais c'était pas viable sur du long terme comme ça, quoi, du tout.
Et tu dis « on » effectivement depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que lui a également fait une partie de ces courses-là ou il était plus pour t'accompagner?
Non, je dis « on », parce que c'était avec lui, que c'était un ami, que lui me soutenait, mais il n'avait pas les moyens du tout de mettre le budget. C'était déjà énorme d'investir dans ce bateau-là, de payer le fonctionnement quasiment entièrement. Alors, il y avait d'autres petits partenaires, etc. Mais ça, moi, ça me permettait pas de vivre, quoi. C'était... à peine, et je dis on parce que avec ma famille quoi, je commençais à avoir des enfants, Marie et tout, donc moi j'ai été soutenu à fond par Marie, ma compagne, qui elle est institutrice, mais voilà, clairement sur du long terme c'était pas possible de continuer comme ça.
Et du coup tu arrêtes la mini après ces 2 années splendides?
Bah après ces 2 années splendides, j'arrête. Puis alors là, les caisses sont vraiment vides et j'ai pas du tout anticipé. J'ai la forte envie de continuer. Je me dis c'est dommage depuis entre la Transgascogne et la Mini 2015, puis 2016, puis 2017, j'avais tout gagné, mais j'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir continuer. Clairement, j'avais fait 6 ans de mini et j'avais envie de passer à autre chose si je réussissais à le faire. Mais zéro piste quoi pour trouver des partenaires. Et là l'hiver 2017-2018 il y a l'équipe d'Initiative Cœur de Sam Davis qui m'embauche un peu pour faire la petite main en composite et faire un chantier sur leur IMOCA à Lorient. Donc j'ai bossé 3 mois avec eux et c'est pendant ces 3 mois que l'excellente nouvelle du contact avec le Crédit Mutuel s'est fait. Et voilà, j'étais voilà, c'est sorti un peu de nulle part. Et voilà, ça c'était là. C'est comme ça que j'ai pu rebondir. Et puis en quelques mois avec le Crédit Mutuel, j'ai rencontré les dirigeants, le contact s'est bien passé. Et on a monté vraiment ensemble le projet de partir en classe 40. Avec pour objectif de préparer la route du Rhum 2022 sur un bateau qu'on allait construire en choisissant nous-mêmes l'architecte et en choisissant l'architecte qui avait dessiné mon dernier mini avec lequel j'avais tout gagné.
Ok, donc c'est lui qui fait actuellement le classe 40 qui est en préparation pour la course?
Alors on a lancé du coup en 2018, le Crédit Mutuel a validé le projet, s'est engagé avec moi. David a pu dessiner le bateau et on l'a construit tout 2018-2019. Grosso modo, on a commencé la construction fin 2018 et on a mis à l'eau en août 2019, donc il y a un an, là, un tout petit peu plus d'un an. On a produit vraiment énormément de travail et pour être à l'heure pour faire la Transat Jacques Vabre l'année dernière sur ce bateau. Donc c'était vraiment, on l'a mis à l'eau fin août et je sais plus quand c'était, mais c'était fin septembre, fallait être au Havre pour le départ de la Jacques Vabre. C'était très très speed, mais ça valait le coup de bosser à fond sur... Pour la première course, on gagne la Transat Jacques Vabre avec Adrien Hardy.
Ok. Canon.
Donc ça s'est bien enchaîné. Et puis ça a permis de bien lancer le projet, d'accrocher que le Crédit Mutuel n'avait pas l'habitude de sponsoriser, parce que c'est pas le Crédit Mutuel de Bretagne qui lui a des projets IMOCA et Figaro. Là, c'était le Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui est donc plutôt dont le siège social est plutôt à Strasbourg, donc un peu loin de la mer. Et donc ça a causé pas tout de suite aux collaborateurs ces histoires de bateaux, mais là avec la Jacques Vabre, en plus il y a eu du suspense, un peu des rebondissements, et donc ça, voilà, ça a permis de bien faire prendre la mayonnaise, je pense, en interne, et de bien lancer le projet, quoi, dès la première course.
C'est impressionnant, ça fait quand même une sacrée liste de courses que tu as gagnées, dis donc.
c'est pas mal, parce que donc après cette année, malheureusement, il y a les courses qui ont été annulées avec le Covid. On avait deux transats à faire, mais qui n'ont pas eu lieu. Du coup, moi, j'ai décidé de faire tenter un record en solitaire du Tour des îles Britanniques pour me faire de l'expérience en solo sur ce bateau. Donc, j'arrive à battre le record sur le Tour des îles Britanniques en équipage et en solitaire. Donc là, en équipage, il vient d'être repris, mais j'ai toujours le record en solitaire. Et on a enchaîné sur la Dream Cup, qui était la première course et la seule course pour l'instant de la saison, qu'on gagne aussi. Donc, grosso modo, sur mon bateau, depuis 2015, j'ai gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé. Donc c'est pas mal. Mais après, les séries sont faites pour s'arrêter, mais le plus tard possible sera le mieux.
Comment tu penses que ça s'est... Comment tu l'expliques, du coup, tes gains là, sur 2015-2017 est-ce que c'est parce que le prototype va naturellement plus vite qu'un série? Est-ce que c'est parce qu'il avait été en plus étudié différemment?
Alors, en 2015, c'était en série sur un bateau qui ensuite n'a plus jamais gagné sur l'offset. Après, ça a été trusté par les Pogo 3, mais on était 3 offset et 3 Pogo 3 pendant 2015. Par contre, j'étais le premier à avoir eu le bateau. C'est moi, je pense, c'est sûr qu'il y avait le plus navigué sur le bateau. Donc, j'avais plus d'entraînement. Donc, c'est ça qui a fait que je gagne la course. Après, clairement, en 2016-2017, j'avais un prototype qui était complètement incroyable et au-dessus du lot. Donc là, il suffisait, entre guillemets, de pas faire d'erreur, de pas faire de grosses boulettes et surtout de pas casser. Savoir que la course au large, il suffit pas d'être bon sur l'eau, c'est aussi dans la préparation, dans le choix des priorités. Et je pense que je me suis pas trompé, ayant ce bateau entre les mains, j'ai vraiment mis toutes les priorités sur le fait de fiabiliser le bateau. Les seules courses qu'il avait pas gagnées, c'est parce qu'il avait pas fini les courses. Et donc 2016-2017, moi j'avais qu'un objectif, c'était finir les courses. Je savais que si je finissais les courses et que je faisais pas de grosses conneries stratégiques, ça allait bien se passer. Et donc là, je pense que j'ai été bon là-dessus sur sur le choix de mes objectifs. Et voilà, la gestion, on va dire, la gestion du projet. Et donc là, j'étais bon là-dessus. Et avec ce bateau, si on faisait pas de bêtises et qu'on allait à peu près au bon endroit, ça se passait bien, quoi. Donc voilà. Et puis là, pareil, on a fait un beau bateau. Je pense qu'on a fait des bons choix sur la fabrication de ce nouveau bateau avec l'architecte. Le bateau est bien né. Et puis du coup, la Jacques Vabre, ça s'est bien passé aussi. On a fait une petite option avec Adrien qui s'est révélée être bonne et qui a permis de nous retrouver dans une situation où le bateau allait vite, quoi. Voilà, donc je sais pas trop l'expliquer. Je pense que j'ai réussi à trouver les bons bateaux et puis peut-être à faire les bons choix de temps en temps, quoi.
Et comment tu l'as choisi, du coup, Adrien, sur la Jacques Vabre? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette course avec lui et pas un autre?
Adrien, c'est lui qui m'avait c'est un marin excellent avec beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de mini, beaucoup de Figaro, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Au début de mon projet, c'est lui qui m'a embauché comme préparateur. Donc, quand j'étais revenu de voyage, c'est pour lui que je travaillais. Pendant 3 ans, j'ai travaillé pour lui, pas tout le temps à plein temps, mais et il m'a aidé, il m'a prêté son hangar pour mettre le mini au début, il m'a vachement conseillé. Donc, voilà, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, beaucoup de confiance. Et voilà, je pensais que c'était un super équipier. Puis il était, il a aussi, il est très polyvalent. Il est bon sur l'eau, mais aussi dans. Lui, il a été avec nous dès la mise à l'eau du bateau, donc il nous a aussi vachement aidé dans la préparation technique. C'est quelqu'un qui bricole beaucoup. Et puis c'est quelqu'un aussi en cas de coup dur en mer qui est capable de trouver des solutions. Donc avec, sur un bateau neuf, c'était aussi un atout de l'avoir à bord. Parce que je savais qu'en cas de problème technique, on ne serait pas complètement démunis.
Si tu parlais typiquement de coup dur, t'as jamais eu de coup dur aussi conséquent que le retournement sur la mini depuis ?
J'en avais eu avant, je pense. Le retournement, j'ai vu ma première grosse course en solitaire, c'était un aller-retour aux Açores et je suis revenu des Açores quasiment sans énergie. Ça a été extrêmement dur. Et je pense que ça m'a marqué dans ma vie de coureur au large. Voilà, j'ai fait 1000 quasiment sans lâcher la barre. Et en restant assez compétitif. Donc là, je suis vraiment allé au bout de ce que j'étais capable, même peut-être un peu plus loin encore. Ça, c'était un gros coup dur. Et après, il y a eu le chavirage. Et depuis, non, j'ai pas eu de gros coup dur.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu. Qu'est-ce qui se passe en fait dans. Tu me décris un peu la situation du chavirage. Tu m'as dit c'est un surf comme elle finit. En plus, il est 4h du matin, il fait nuit, je suppose. Comment ça se passe ? Tu pourrais décrire un peu la situation ?
Ouais, alors, ce qui se passe, c'est que on est tout le temps en éveil et à l'affût de genre de problèmes techniques, d'imprévus. Un peu, on est toujours en alerte pendant une course par rapport à ça. Et dès qu'il y a un événement anormal qui arrive, bah on est dans la réaction, donc on est tout de suite à essayer de trouver des solutions. Donc moi, dans les quelques secondes pendant le chavirage ou après le chavirage, j'étais dans ce mode là quoi, à dire bon, qu'est-ce que je fais pour repartir quoi, enfin. Et puis c'est petit à petit quoi, en quelques secondes je dis bah ça c'est pas possible, bon voilà, le bateau il est en vert. Bon, là, ça craint. Bon, là, faut que je prévienne la VHF. Bah non, j'ai plus de VHF. Faut que. Et puis voilà, je faisais un peu la liste des choses que je pouvais faire. Et j'ai dit, bah non, bah là, en fait, là, je peux plus rien faire. J'ai quelques secondes comme ça où on est vraiment dans la réaction et où on percute pas que la course, elle est finie. Ça, c'était un peu rigolo, quelque part. Et puis bah après on se résout au fait que c'est un peu une situation de détresse, donc on repense aux situations similaires dont on a entendu parler, que des amis à qui il est arrivé des choses qui peuvent se rapprocher à ça, de ça, et du coup on met en place les procédures, enfin on se met en tête quelles procédures il faut appliquer et puis on fait les gestes qu'il faut. Donc on est comme ça, on reste. Enfin moi en tout cas, je suis resté très pragmatique quoi. C'est du coup ça laisse pas de place à. Au début, il y avait vraiment pas de place pour des émotions négatives comme la peur ou la panique. Il n'y a pas du tout eu ça quoi. C'était très très cartésien quoi. Jusqu'à la montée sur le cargo, et là après sur le cargo, c'est sûr que là il y a d'autres émotions qui sont arrivées, la frustration, la rage. Et puis après, a posteriori, un peu, mais sans le laisser venir trop la peur de ce qui aurait pu se passer. Mais c'est vraiment la peur, c'est arrivé c'est des jours après, en repensant et en repensant à ce qui s'était passé, je dis ouais, bon là, c'était quand même pas terrible.
Voilà. C'est quand même ouf, hein. Et quand tu dis que t'as fait 1000 sans lâcher la barre, donc quoi, plus d'énergie, ça veut dire quoi, plus d'autopilote ?
Bah plus d'énergie, ça veut dire plus de pilote. Alors j'avais plus d'énergie. Bon, bah c'était, j'avais eu des problèmes de, je fabriquais de l'énergie avec une pile à combustible pour aller aux Açores, qui est tombée en panne à cause de l'humidité à bord. Du coup, j'ai passé mon escale à essayer de trouver un générateur qui marchait là au port. Et puis dès la première nuit, il est tombé en panne. J'ai pas réussi à la réparer. J'ai tout démonté. J'y arrivais pas. Et puis j'avais voilà, c'était ma première année, du coup zéro budget, j'avais récupéré le bateau tel quel, j'avais rien pu remplacer et les batteries vraisemblablement étaient vraiment en fin de vie. Du coup, elles avaient plus de capacité et dès la première nuit en fait, elles étaient à plat quoi. Et du coup, je me retrouve sans à part un petit panneau qui était vraiment en fin de vie et tout petit, pas du tout suffisant. Je me retrouve avec des batteries à plat de toute façon qui se rechargent très mal avec le panneau solaire et de toute façon pas de soleil parce que dans une dépression avec beaucoup de vent. Voilà, du coup plus de pilote automatique, obligé de couper toute l'électronique à bord pour pouvoir mettre le pilote pendant 30 secondes s'il faut ou une minute, mais tout coupé et puis et rentrer comme ça. Sauf que à l'aller j'avais fait 3e avec mon petit bateau, mes petits moyens et mes vieilles voiles, et du coup j'étais vraiment super content et super motivé. Et dès cette première nuit, là, j'avais vraiment, vraiment la rage. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je voyais bien que ça allait être impossible de rentrer comme ça, quoi, sans dormir. Parce que j'en avais pour 1000, il y en a pour 7 jours, quoi. Donc j'ai dit, 7 jours sans dormir, c'est pas possible. Donc pour dormir, il y a un moment, il va falloir s'arrêter, quoi. Et j'ai dit, mais si je m'arrête, je vais dégringoler au classement. En plus, là, j'étais bien parti. Donc je me dis c'est pas possible et je me dis tant pis, je vais faire le plus possible pour rester bien dans le classement le plus longtemps possible. Voilà, donc je dis allez, on sort les doigts et on barre et puis j'ai vécu à la barre et on a eu 3 jours vraiment vraiment sport. Et c'était arriver à attraper d'un bras en tenant la barre, à manger en bas ou en mettant le pilote pendant 10 secondes. Ouais, choper un truc, tout couper, hein. Je coupais la VHF, les feux, le GPS, l'électronique, tout, et puis à la barre, et puis à la barre, et à la barre. Et j'ai fait, je pense que j'ai fait 4 jours où j'ai réussi quand même, je mettais le pilote pour dormir, mais j'ai dû dormir, moins d'une demi-heure par jour pendant 4 jours.
Voilà.
Et après, au bout de 4 jours, finalement, le soleil, ça s'est calmé. Donc, le pilote consomme moins quand il y a moins de vent. Parce que, en plus, là, j'avais un vérin hydraulique, donc il consomme énormément, bref. Et au bout de 4 jours, ça se calme un peu et il y a un peu de soleil. Donc, la journée, même si les batteries sont mauvaises, il y a quand même un peu de tension dans le circuit. Donc je pouvais mettre le pilote un peu plus, dormir un peu plus, puis après ça allait mieux quoi. Et finalement j'ai réussi sans jamais m'arrêter, en étant complètement décalqué, hein, clairement. Mais je suis resté à peu près compétitif et j'ai sauvé ma 3e place pour ma première grande course. Mais c'était une expérience, à l'arrivée je suis littéralement tombé dans mon assiette au restaurant, je me suis endormi dans mon assiette. J'étais vraiment allé très très loin quoi.
Comment tu t'es fait coacher là pour avoir ce niveau là? C'est tout seul, c'est de l'entraînement, c'est des personnes extérieures, des clubs, comment ça se passe?
À Lorient j'ai pu m'entraîner quasiment dès le début, pas beaucoup la première année, mais avec Tanguy Le Glatin là, qui est un entraîneur qui a énormément d'expérience et notamment avec les mini 650. Donc là, j'ai pu bénéficier de ses conseils, de ses entraînements sur l'eau, et puis de toute l'expérience, pas de course, mais de marin que j'ai pu avoir au Glénan. Au Glénan, il y a aussi une formation qui peut être excellente, et surtout beaucoup d'expérience, beaucoup d'autonomie. C'est vrai qu'au Glénan, on est vite rendu moniteur autonome et on nous fait confiance. Et donc finalement les heures passées sur l'eau et puis l'intérêt, la passion hein, tout simplement, d'être passionné, de chercher à progresser, de chercher à comprendre et puis d'avoir passé beaucoup de temps sur l'eau, même si c'est pas en compétition, je pense que ça n'a jamais été du temps perdu, et puis d'apprendre, de transmettre cette passion comme moniteur. Donc quand on transmet, on continue d'apprendre. Et puis aussi j'ai l'esprit quand même de compétition, donc l'envie, c'est sûr que je suis passionné et compétiteur, Et du coup, bah, le, voilà, de trouver l'énergie, surtout au début, je pense que je palliais mon manque de connaissances techniques, quoi, par l'énergie, quoi. Donc, ça, je pense que j'avais un gros réservoir d'énergie. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup d'engagement. Et la preuve, ce retour dont on parlait des Açores, je suis pas sûr qu'aujourd'hui j'arriverai à. J'aurai la niaque comme ça. Voilà, c'est sûr que ça m'étonne, ce que j'ai fait ce coup-là m'étonne encore, quoi. Et je pense que c'était vraiment l'envie de prouver à moi et peut-être aux autres, mais essentiellement à moi, que j'étais capable de faire ça, quoi.
Et là, vous êtes bien parti avec le bateau pour faire la route du Rhum 2022, t'es en bonne voie, c'est quoi les prochaines étapes?
Bah là, le partenariat, ça qui est génial avec le Crédit Mutuel, c'est que ils ont été OK pour s'engager sur la longueur, parce que c'était un contrat du coup qui a duré 4 ans et demi. Il dure 4 ans et demi, donc ça c'est vraiment assez exceptionnel, quoi. Enfin, en classe 40 en tout cas, et pour moi en particulier. Et donc ça permet de bien se préparer. J'ai les moyens de bien faire, donc. Voilà, on a bien débuté le projet et l'idée c'est de continuer de se donner les moyens de faire du mieux possible, de progresser. Là, la concurrence arrive parce qu'il y a d'autres bateaux qui sont très performants qui arrivent aussi. Du coup, ça va être de moins en moins simple. Ça l'a pas été, hein, simple, mais on va dire ça va être de plus en plus compliqué d'être devant. Donc, voilà, on va continuer de s'entraîner, passer du temps sur l'eau, améliorer le bateau. Enfin voilà le train-train d'un projet de course au large, qui est pas vraiment un train-train d'ailleurs, mais voilà, à la fois la fiabilisation du bateau et à la fois maintenant essayer d'augmenter sa performance et puis d'acquérir de l'expérience dessus, parce que, au final, c'est quand même le maître mot, ça reste l'expérience.
Le classe 40 là, il est à foil ou pas, ou c'est encore des...
Non, les classe 40, les foils sont interdits, c'est des bateaux qui peuvent s'apparenter un peu en plus gros à des mini de série. Donc une classe où on essaye de maîtriser la philosophie est d'essayer de maîtriser quand même un peu les coups, la coque a pas le droit d'être en carbone. La quille est fixe, voilà, il y a beaucoup d'options qui sont interdites. Qui fixe, foil pas possible, etc. quoi. Donc c'est un bateau simple.
Et donc je demandais, c'est quoi les courses du coup de qualif là que tu vas faire jusqu'à 2022?
Là cette année il nous reste la Normandie Channel Race là, dont le départ est bientôt le 13 septembre. L'année prochaine il y a un aller-retour aux Açores en double, il y a une Transat Jacques Vabre en double. Et d'autres petites courses. Voilà, ça c'est pour les grandes. Et l'année d'après, la route du Rhum. Et après, il y a tout un tas de courses, on va dire, je sais pas, 5 courses par an pour les classes 40 auxquelles je participerai, quoi. Mais les grands rendez-vous, c'est ça, c'est la Jacques Vabre l'année prochaine, puis la route du Rhum.
Et quand tu invites quelqu'un en double, typiquement pour une Jacques Vabre, c'est sur ton bateau, mais c'est une autre personne extérieure qui vient pour faire la course uniquement.
Ouais, exactement. Okay. Et ben là, je fais la Normandie Channel Race là dans 3 semaines avec Julien Pulvé, avec qui on s'est tiré la bourre du coup en 2015 sur le même, enfin pas sur le même type de bateau en 9-7. Et voilà, la traversée dont je te parlais à touche-touche, c'était Julien Pulvé. Donc là, je l'ai invité à venir naviguer cette fois sur mon bateau. Comme ça, je suis sûr qu'il va pas se barrer pendant la course.
sur une semaine type, si on prend une semaine type typiquement, là en ce moment tu es en préparation, ça ressemble à quoi le jeudi par exemple?
Le jeudi?
Ouais.
Le jeudi, il n'y a pas de jeudi trop. Il n'y a vraiment pas de routine. Je peux te dire, c'est que cette semaine, par exemple, on a commencé par 3 jours d'entraînement avec Tanguy Le Glatin, donc 3 jours de navigation avec Julien Pulvé pour la prochaine course. Donc ça, c'est voilà, des essais de, des entraînements sur la vitesse du bateau, des essais de voile, des petites modifications qu'on peut avoir fait sur le bateau, qu'on fiabilise. La grand voile, on fait une modif, parce qu'on fait une modification dans le gréement pour essayer d'aller un peu plus vite. Donc la grand voile, faut la modifier, la mettre sur le toit du camion, l'emmener à la voilerie, ça c'était hier, ce matin. Déplacer de la castillage, ça c'était cet après-midi. La logistique, comment on va être organiser notre arrivée à Caen, quand est-ce qu'on part, est-ce qu'il n'y a pas d'autres bateaux pour s'entraîner, donc les coups de fil à droite à gauche pour essayer de mettre à profit le moment où on va aller là-bas, un coup de fil avec les gens qui s'occupent de la communication Crédit Mutuel, comment on va gérer les habits, les trucs, enfin voilà, c'est tout, c'est un peu du flux tendu. Et vraiment sans aucune routine, quoi. Voilà, demain, on récupère la grand voile, donc il faudra retourner à la Trinité, la chercher, la réinstaller. Tout ça prend du temps. Chercher les outils dans le box, parce que la dernière fois qu'on a fait la course, on avait débarqué pas mal d'outils pour être léger. Puis dans le convoyage du camion, tout n'a pas été remis forcément à sa place, donc il n'y a plus les outils dans le bateau. Voilà, l'organisation. Il va falloir préparer la nourriture pour la course. Enfin bon, là, c'est les choses qui me passent par la tête, mais voilà, c'est un peu du. On n'est pas du tout une grosse équipe, hein. On est deux à plein temps. Et de temps en temps, on a un peu du renfort, mais. Donc voilà, c'est un peu comme le. Voilà, c'est un tout petit peu plus pro qu'en mini, mais ça reste. Ça reste du flux tendu et c'est pas rien n'est prévu deux semaines en avance, quoi.
Et alors typiquement sur la semaine, toi qui es fan de voile, il y a quand même des trucs qui vont vous embêter ou t'énerver. Je sais pas, si tu devais retirer un truc de la semaine, t'enlèves quoi?
Un truc qui m'a énervé dans la semaine, mon téléphone qui tombe à l'eau là tout à l'heure.
C'est clair.
Non, cette semaine ça s'est bien passé.
Mais en général, du coup, typiquement, sur une semaine, toute la semaine se passe bien, t'as pas des trucs qui... Enfin, j'en connais quand même plusieurs qui m'ont parlé du fait que l'administratif, ça les gave. Y en a d'autres, c'est les mails, d'autres, c'est les invitations à gérer et la logistique. Vous, il y a un truc en particulier qui est pas aussi plaisant que le reste à faire?
Bon, l'administratif, c'est sûr, c'est pas ma passion. C'est pas forcément ma vocation, mais j'essaye d'apprendre à faire ça le mieux possible et à pas m'énerver, la compta, tout ça. Non, moi ce que j'adore, c'est que c'est varié. Donc je pense que si c'était naviguer tous les jours, toute la semaine, je pense que ce serait vraiment trop usant. Donc le fait que ce soit varié et qu'il faille gérer le projet dans sa globalité et qu'il y ait plein de tâches différentes. Moi je trouve ça super chouette. Alors je préfère naviguer et surfer avec le bateau que gérer la compta, hein, mais voilà, je prends tout de manière positive, puis ce qui est génial c'est d'avoir son projet et du coup de s'organiser comme on veut, de gérer son temps comme on veut, donc ça c'est un vrai luxe. Donc non, il y a rien qui m'énerve.
Bon, tant mieux. Et on parlait pas mal de Tanguy, qui fait partie effectivement des personnes que tu vois le plus souvent. En dehors de lui, tu as d'autres personnes que tu vas admirer, qui vont t'inspirer, pas forcément des voileux d'ailleurs.
Que j'admire, non, il y a un personnage qui m'intéresse pas mal en ce moment, que j'ai suivi beaucoup d'ailleurs pendant le confinement, c'est Aurélien Barraud. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Non.
C'est un astrophysicien là, à Grenoble, qui est assez engagé d'un point de vue écologie et qui fait des prises de parole super pertinentes là-dessus. Et qui est aussi, du coup, physicien, astrophysicien. J'ai notamment suivi des cours de vulgarisation de cosmologie là, pendant le confinement, là, qui m'ont bien passionné. Et qui est aussi, qui enseigne aussi en philosophie, en épistémologie. Donc j'ai suivi aussi ses cours d'épistémologie. Ouais, c'est pas quelqu'un forcément que j'admire, mais que je regarde beaucoup en ce moment et qui m'intéresse. Un personnage intéressant et puis qui a un discours, je pense, assez juste, surtout en termes d'environnement. Et voilà, sinon... Non, j'ai pas de grand... Non, sinon, il y a... Je sais pas. Dans la voile, c'était Moitessier quand j'étais jeune. Voilà, j'ai lu tous les bouquins de Moitessier. Saint-Exupéry, que j'adore aussi. Je suis très fan de ses bouquins et puis de la vie qu'il a menée dans l'aéropostale. Dans les guerres, dans ses engagements aussi. Voilà, pour les écrivains.
Et ta famille te soutient aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils en pensent quand tu prends ce risque de partir au large à chaque fois ?
Ah bah oui, ça y est, ça c'est rentré dans les mœurs de la famille. Donc oui, ils me soutiennent, ils me suivent. Et puis voilà, je pense pas que ce soit... c'est surtout du temps en mer. Il y a des moments où je suis pas là pendant un certain temps, quoi. C'est surtout ça, le risque... Bon, après tout, le risque, il est pas moins maîtrisé que dans la vie de tous les jours, je pense. Donc, non, c'est plutôt les temps d'absence qui sont particuliers dans cette vie. Même si c'est loin d'être toute l'année, hein, je pense qu'il y a des vies beaucoup plus compliquées de ce point de vue-là. Mais non, ouais, y a pas de... Je suis bien soutenu au quotidien. Pas de problème là-dessus.
Bon, tant mieux. Yann, avant qu'on se quitte, j'ai trois questions pour toi. La première, c'est si quelqu'un qui voudrait se lancer dans la course au large vient s'adresser à toi, tu lui conseilles quoi ?
Clairement de faire du mini, hein. Le mini, de se lancer par le mini 50. Je l'encouragerais, je lui dirais que c'est possible, qu'il n'y a pas de raison, que c'est vraiment très chouette déjà. Après ça dépend du projet, ouais, mais si c'est un projet de entre guillemets de carrière, je pense que commencer par le mini c'est une bonne chose, c'est très formateur, c'est surtout des super moments, beaucoup de plaisir, beaucoup de très formateur, et voilà, donc voilà ce que je conseillerais, c'est de partir là-dessus.
Et donc du coup, comment on fait pour te suivre, pardon, là, pour les prochaines courses qui vont suivre ? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des livres, des films ? Comment on fait pour te suivre ?
Eh ben, il y a un site vachement bien qui s'appelle Skipper Crédit Mutuel, sur lequel on peut aller voir. Il y a une web série là qui a été réalisée cette année, qui est très bien faite. Il y a 6 épisodes de 8 minutes environ. Qui ont été faits, qui présentent le projet, qui revient sur le début de projet avec le Crédit Mutuel et la construction, etc. Et les premières courses, les premières aventures avec ce bateau, ce Classe 40. Donc voilà, le site est très bien fait et là, j'invite les gens que ça intéresse d'aller le visiter.
Top. T'as une page Facebook aussi, j'imagine ?
Et il y a une page Facebook, c'est Yann Lipinski, Skipper Crédit Mutuel, si je me trompe pas.
Parfait.
Où aussi, il y a un peu plus, où il y a aussi des infos et on met des infos régulièrement sur le suivi du projet.
Canon. Et troisième et dernière question, du coup, c'est un peu philosophique, imagine, on a la technologie de te renvoyer en arrière et tu t'adresses du coup à Yann qui en 2009 est invité à joindre pour la première fois sur une mini. Qu'est-ce que tu lui dis ?
Je lui dis que... Ouais, si je le rencontre, quoi, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis qu'il a l'air d'un vrai touriste parce qu'il est avec ses cirés qui ont 10 ans, tout percé, des bottes déchirées, et qu'il va bien se cailler le... Il va bien avoir froid aux fesses pendant la course et qu'il ferait bien de s'équiper. Voilà ce que je lui dis. C'est pas très philosophique, mais je pense que si je m'étais vu, si je voyais quelqu'un arriver comme ça sur un mini Fastnet, comme j'étais arrivé, je lui dirais que de s'équiper.
Bon, bah, super. Merci Yann pour ce temps encore avec moi aujourd'hui. Ben, et on a hâte de voir la suite sur la course la route du Rhum en particulier qui aura lieu dans 2 ans du coup.
Ok, ça roule, merci beaucoup.
À bientôt Yann.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.